À 2 jours de la fête du Sacré-Cœur de Jésus et bien quelques dimanches seulement, par rapport à la Sainte Trinité, au Saint-Sacrement, nous avons eu donc toute l'occasion de nous rapprocher du Seigneur, d'entrer dans son cœur, dans son intimité. Et maintenant, tout naturellement, eh bien, c'est un texte d'envoi en mission et que l'Église nous propose ici de méditer. On voit tout de suite à nouveau la qualité, la douceur, la bonté du cœur de Jésus. Quand il voit la foule, il est saisi de compassion envers elle, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Saisi de compassion, c'est très fort comme sentiment. C'est vraiment un bouleversement dans le cœur du Seigneur. Lui se soucie, ô combien plus que tout homme, du salut des âmes, et même de leur bonheur, de leur équilibre ici-bas. Parce que malheureusement, lorsqu'on s'éloigne du bien, eh bien le mal nous fait faire toutes sortes de bêtises, et ça se tourne contre nous de toute manière. Beaucoup de maux dans le monde ont les hommes pour origine, et trop souvent nos propres épreuves sont liées, ça peut être un manque de discernement, ça peut être, et on fait, je sais pas moi, on oriente mal sa vie, un mariage raté par exemple, le mauvais choix d'un partenaire, ou toutes sortes de choses. On s'attaque à quelqu'un parce qu'on a cultivé une haine envers lui au lieu d'arrêter et on se prend la réaction de l'autre qui se venge, que sais-je moi. Le mal dans le monde, c'est quelque chose qui égare les hommes comme des brebis sont égarées dans les pâturages parce qu'il n'y a pas de berger pour les surveiller. Il est saisi de compassion face à ce grand spectacle. Ceux qui cherchent un sens à leur vie et ne le trouvent pas. Ceux qui cherchent un grand amour à embrasser, qui donne à la vie son sel et sa saveur et ne le trouvent pas. Voilà les brebis sans berger. On reconnaît l'homme de tous les temps, l'homme qui n'est pas avec le Christ. On reconnaît les hommes de notre temps. Ce sont vraiment des brebis sans berger. Et Jésus nous donne l'exemple, eh bien, de la compassion. La véritable compassion, c'est ce salut des âmes et en même temps les premiers fruits, les arts du royaume des cieux, à savoir le don de la paix intérieure, d'un équilibre, de la restauration du bon sens, tout ce qui donne les conditions du bonheur ici-bas. Les recommandations du Seigneur, j'aimerais m'arrêter sur elles maintenant. Ne pas prendre la route des nations païennes. C'est la première recommandation que Jésus donne à ses disciples. L'Église, nous le savons, n'est pas de ce monde, mais nous devons souvent nous le redire, parce que nous entendons sans cesse des gens réclamant que l'Église s'investisse dans le monde et en commencer par être en communion avec le monde et avec ses valeurs et à cesser de se tenir à l'écart. Nous comprenons que prendre la route des nations païennes, ce serait embrasser les valeurs du monde païen. Et nous ne le pouvons pas. Jésus nous demande de résister à cela, de même qu'il demandait aux Hébreux au désert, c'était la première lecture, de ne pas se retourner nostalgiquement vers l'Égypte quand ils ont soif, quand ils ont faim, mais de se tourner vers Dieu. Sans Dieu, nous sommes destinés à l'esclavage de l'Égypte. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire à l'esclavage du monde. Le monde nous dépasse, et s'il n'y avait pas Dieu qui est plus grand que lui, eh bien le monde serait la totalité de l'existence et du sens, donc de la vie. Les valeurs de l'Évangile sont les ailes du grand aigle. Dans la première lecture, s'il y a cette référence aux ailes de l'aigle, je vous ai porté comme l'aigle. Et qu'est-ce que ça signifie ? Les valeurs de l'Évangile nous permettent, en quelque sorte, bien de prendre notre envol, de regarder d'en haut, d'une certaine façon, spirituellement en tout cas, d'être libre, volant au-dessus du monde et de ses valeurs et de ses conflits. Cette paix intérieure peut être comparée aux ailes du grand aigle qu'est le Seigneur. Seconde recommandation, aller vers les brebis perdues d'Israël. Il faut comprendre pour nous, les brebis perdues d'Israël, c'est ce que l'Église appelle les hommes de bonne volonté. Ils sont dans le monde, prisonniers du monde, parce qu'ils n'ont pas les moyens ni intellectuels, ni affectifs de prendre leur distance vis-à-vis des conditionnements, vis-à-vis des exemples, vis-à-vis des stimulations incessantes. Alors, ces hommes pourtant ne choisissent pas le monde, mais parce que ce monde ne leur apporte pas le bonheur qu'ils attendent. Ce sont les hommes de bonne volonté qui sont égarés. Cela existe, nous le savons très bien, c'est tous les convertis qui nous en montrent l'exemple, et bien c'est vers eux qu'il faut aller, qu'il faut annoncer l'Évangile, ses valeurs et surtout Jésus. Le mal dans le monde, c'est à peu près le seul sujet de conversation qu'on puisse avoir avec ceux qui n'ont pas envie de se convertir. Et en pensant donc au monde moderne, à ce monde contemporain, le pape là, a sorti une encyclique, on dit que c'est sur l'intelligence artificielle, mais en réalité c'est sur la justice sociale et simplement une remise à niveau avec la considération de cette nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle. C'est pas une encyclique basée sur l'intelligence artificielle, ça la prend en compte. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Que l'IA, comme on l'appelle, représente un redoutable défi pour la liberté de l'homme. Et l'Église, c'est ce que dit le pape Léon, doit prendre position par rapport à ça, avertir les hommes. Ça va jusque-là, les valeurs de l'Évangile. Et c'est ça, s'adresser aux hommes de bonne volonté. Vous voyez, gérer une société avec ce type d'instrument, cette automatisation des critères, de l'évaluation, et bien, ça transforme les hommes et les femmes en données, en simples données statistiques. Vous voyez, ça rappelle ce calibrage très réductionniste, rappelle un autre calibrage, le premier de l'histoire du monde, celui de la tour de Babel, où les hommes étaient réduits au calibre d'une brique qui devait participer, qui devait permettre la construction de cette tour qui touche jusqu'aux cieux. Oui, ils étaient tous d'accord, les hommes, parce qu'ils étaient tous calibrés. Et l'intelligence artificielle, un mauvais usage, laisse malheureusement entrevoir cette possibilité moderne. Le règne de l'IA, c'est le règne de l'inhumain. C'est une machine. Et une machine n'a pas de cœur, n'a même pas de conscience, pas d'intelligence non plus. C'est à tort qu'on appelle ça intelligence artificielle. C'est une logique artificielle. C'est rien de plus. Mais si on en fait une divinité, ça devient, vous savez, l'image de la bête dans l'Apocalypse. Il y a la bête, et puis les hommes dressent une image de cette bête qui les a séduites pour se révolter contre Dieu. Et il est donné à la bête de faire parler l'image. Vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est une bonne métaphore pour montrer ce que peut être une image qui se met à parler et à faire semblant de penser. Et elle fait mettre à mort tous ceux qui ne porteraient pas la marque de la bête, la marque du monde. la marque des valeurs du monde. Enfin, troisième recommandation, proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Ça, c'est une grande réalité que nous connaissons, mais que les hommes, les brebis égarés ne connaissent pas. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Dieu est même proche de ceux qui ne l'invoquent pas, puisque Jésus est saisi de compassion devant ses brebis qui ne tournent pas leur regard vers lui, mais lui tourne son regard, son cœur vers elles. Dieu est plus fort que le monde, ça c'est vraiment une chose dont on doit toujours être sûr au moment de nos épreuves, de nos doutes. Et puis, le Seigneur demande à ses apôtres, et donc à l'Église tout entière, de combattre le mal sous toutes ses formes, les maladies, les possessions. Et ça vraiment, les maladies, c'est... On n'a pas fait de pacte avec les forces du mal, mais on est gauchi, on est rendu malade par, comme je le disais, par une société qui n'a plus la vérité comme finalité, par exemple, et donc on tourne en rond sans cesse. Une société dont les valeurs sont pathologiques, qui rend malade tous ses membres. Il y a les malades qui ne voudraient pas être malades, mais qui le sont, et puis vous avez ceux qui ont pactisé. Ils ont trouvé leur intérêt chimérique, mais leur intérêt à toutes ces valeurs et au service de ces valeurs, ce sont les possédés. Voyez, le mal sous toutes ses formes, l'Église doit non seulement le dénoncer, mais le combattre. Il est donné à l'Église le pouvoir d'y remédier. Comment ? Eh bien, en remettant les choses en place, en expliquant l'Évangile et les commandements du Seigneur, on remet une intelligence et un cœur en place. La foi, c'est se joindre au grand combat de Dieu. Nous avons la foi, nous devons nous joindre au combat de Dieu dans le monde. Son combat, c'est de luire dans les ténèbres et d'appeler eh bien, toutes les âmes qui peuvent le voir. Alors là, au milieu des ténèbres, la lumière est impossible à cacher. Donc après tous les beaux mystères que nous avons pris en compte ces dimanches derniers sur l'essence divine, sur la majesté divine et sur la miséricorde divine, eh bien, publions là où nous sommes, mais auprès de ceux qui peuvent nous entendre, eh bien, les merveilles du Seigneur.